Voici Panorama qui commence jusqu'à 20h. Panorama aujourd'hui avec ce soir deux livres qui se répondent d'une certaine façon. Les nazis avec d'un côté les pillages, la façon dont ils ont volé tout ce qu'il y avait à prendre en France pendant l'occupation, dans les ministères, dans les établissements publics, les musées, les hôtels, dans les maisons bien sûr, les appartements, les châteaux et pas que des œuvres d'art. Christophe Lucan publie Le vin des nazis chez Grasset. Bonsoir à vous Christophe Lucan.
Bonsoir.
On va parler d'un véritable plan organisé pour piller le vin, mais de manière centralisée, hein, pour ensuite faire un plan commercial pour l'avenir. Et puis le revers de la médaille, c'est comment on s'est servi des talents nazis. On le sait, les Américains ont intégré dans leur service des anciens ingénieurs, notamment ceux à l'origine des missiles V2. Adélaïde de Clermont-Tonnerre en parlait très très bien dans Le Dernier des Nôtres chez Grasset. Mais saviez-vous que les Français ont intégré des officiers allemands, des nazis engagés, pour leur savoir, pour leur intelligence, pour leur science? Et c'est ce que nous raconte Michel Tedoldi. Bonsoir.
Bonsoir.
Dans Un pacte avec le diable chez Albin Michel. Michel Tedoldi, c'est une histoire totalement effarante que vous racontez ici. Alors effectivement, on avait connaissance de ces ingénieurs allemands qui ont été, j'allais dire, aspirés par les Américains juste à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale aux États-Unis. En France, il s'est passé la même chose ou ça a été encore pire ?
Ben, au début, je pensais qu'il s'était passé la même chose. Et puis, en définitive, je me suis aperçu assez rapidement que l'ampleur du phénomène était extraordinairement importante. C'est-à-dire qu'il y a eu, dès avant la fin de la guerre, hein, dès 1944, il y a eu un début de recrutement des scientifiques nazis. Et on est arrivé entre 1944, 1945, 1946, jusqu'à, dans les chiffres qu'on a, c'est entre 3000 et 7000 scientifiques qui ont été recrutés. Mmh. Et ce qu'il faut voir, c'est que quand on regarde un peu l'histoire, donc ce qu'on appelle les 30 Glorieuses, et les 30 Glorieuses, qu'elles qu'elles ont mis en avant comme réussite française, c'est l'aviation militaire, les fusées et l'industrie d'armement, principalement, pas que, mais principalement.
Donc là, vous dites pratiquement jusqu'au début des années 80, quoi.
Oui. Ouais. Le moteur, par exemple, de la fusée Ariane a été mis au point par Bringer, qui est un ingénieur nazi.
Heinz Bringer,
qui est un ingénieur nazi, qui a travaillé pour la France. Le Mirage, c'est très étonnant. Par exemple, tout le monde pense
l'avion de chasse, oui.
L'avion de chasse, tout le monde pense que Dassault a mis au point le Mirage. Mais le Mirage est un avion dont le principal responsable s'appelle Hermann Östrich, qui a mis au point le moteur du
Messerschmitt, non ?
Qui avait mis au point le moteur du Messerschmitt, qui était un nazi féru, qui était un proche d'Hitler. Enfin, tous ces gens ont un passé très lourd avant. Mmh, mmh. Et tout ce passé a été gommé au profit d'une intégration dans les structures industrielles françaises. Et quand on regarde les industries dans lesquelles ils ont été, on s'aperçoit que ce sont des industries qui, après, ont fait la fortune, entre guillemets, de la France.
Mais alors, pareil, on va prendre les exemples cas par cas, et Christophe Lucan va nous excuser de nous attarder un peu sur ces cas précis, parce que c'est quand même très important. Hermann Östrich, par exemple, on le trouve où ? Comment il arrive chez Dassault ? Comment il développe le moteur, comme vous dites, ou en tout cas l'ingénierie du futur avion Mirage ? Et comment est-ce que... comment se déroule son destin ? Est-ce que ça veut dire qu'il passe au travers de la justice, qu'il ne sera pas jugé, qu'il sera... Comment ça se passe exactement, Michel Tedoldi ? Et comment est-ce que vous avez enquêté ?
Aucun n'a été jugé, ça c'est très clair, aucun n'a été jugé. Le cas d'Östrich...
Alors... Parce qu'il aurait pu passer par le procès de Nuremberg, par exemple.
Oui, sans passer par le procès de Nuremberg, en tout cas il y a une série de procès avec des industriels où effectivement ils auraient pu être incriminés, parce qu'ils ont fait tous ces gens ont fait travailler des déportés, tous ces gens ont eu une action, par exemple dans le camp de Dora, et tous ces gens ont participé à l'exploitation, non seulement à l'exploitation, mais à la mort de ces déportés.
Alors Hermann Östrich, on le trouve où d'abord ? Il est
Alors c'est Messerschmitt.
Donc il l'entreprise est... d'aviation allemande. Hein.
Voilà, il met au point le réacteur, et puis la guerre se termine. Donc il était vraiment très proche d'Hitler. Hein. La guerre se termine, bon, il se planque un peu. Et un ancien de Messerschmitt, je ne sais pas, j'avais un doute, est-ce que c'était Georges Marchais du STO, mais je peux absolument pas le certifier. En tout cas, un ancien de Messerschmitt le repère et prévient les autorités françaises, qui rentrent en contact avec lui. et qui lui propose de venir travailler pour eux.
Donc il le repart en disant, écoutez, je connais un ingénieur qui est fantastique, qui travaille chez Messerschmitt, il pourrait peut-être travailler pour l'aviation française, ça
c'était...
Et on prévient les autorités françaises.
Oui, absolument.
On ne prévient pas les usines d'assaut à l'époque.
Non, pas du tout.
Voilà.
Non. Et donc,
qui ne sont pas publics.
Donc, il le repère et il le contacte. C'est un type très orgueilleux, donc il pose ses conditions. Il pose ses conditions, il accepte de travailler. S'il peut travailler avec toute son équipe, donc c'est quand même 150 ingénieurs.
Donc là, on est en quelle année? En 45?
45-46, la fin de la guerre. Vraiment,
mais pardonnez-moi cette question bête, Michel Tédoli, mais comment est-ce qu'un officier nazi qui échappe, entre guillemets, qui passe entre les mailles du filet à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, peut poser ses conditions?
Parce que les Français ont été les alliés, tous les alliés ont recruté. Mais les Français ont cette particularité de n'avoir posé absolument aucune condition au recrutement, et non seulement d'avoir posé aucune condition au recrutement, ce qui était à peu près le cas de tout le monde, mais en même temps de proposer les meilleures conditions d'embauche.
Un peu comme les Américains à la fin de la guerre également, avec les
scientifiques. Oui, mais mieux que les Américains.
Mieux que les Américains.
Avait été contacté par les Américains, il n'a pas voulu. Par les Anglais, il n'a pas voulu. Il a accepté de signer avec les Français. Donc il a signé un accord avec Charles Tillon, qui était à l'époque ministre de l'Air, dans lequel il demandait un pourcentage sur la fabrication de tous les réacteurs. Ce qui fait qu'il a, une fortune, il a accumulé une fortune.
Alors, Hermann Oestrich, vraiment terminer sur ce cas-là, et après on parlera du vin des nazis, il termine sa vie comment? Il a une descendance?
Il n'a pas d'enfant. Par contre, il a obtenu, ce qui est absolument le truc le plus fantastique, la Légion d'honneur. Hermann Oestrich a eu la Légion d'honneur décernée par Pierre Messmer. Dans le livre, d'ailleurs, il y a un facsimilé du texte.
Ouais.
Et je ne sais plus, mais en gros,
lettre, ouais.
y a une lettre qui spécifie et qui dit « De plus, et Monsieur Oestrich n'a rien fait de répréhensible durant l'occupation. »
Ah oui, il y a ça sur le facsimilé.
Ouais. Donc,
c'est totalement bouleversant ce que vous dites. C'est effarant, en fait, hein, d'une certaine manière.
Bah, c'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était un épiphénomène. Quand j'ai découvert l'histoire, je me suis dit ils en ont peut-être recruté quelques dizaines, mais pas beaucoup. Et je me suis aperçu que ça a été une industrie. Que dès le début, le CNRS a été chargé de repérer en 44 les lieux où il était possible qu'il y ait des scientifiques, qu'après la DGSE s'est mise sur l'affaire et que les pouvoirs en général ont recruté de façon massive. Et je pense que un des économistes disait que ça a fait gagner en gros 10 ans à la France. Industriellement parlant.
On va parler des autres, hein, Heinz Bringer, Otto Ambros, Rolf Engel. Je passe sur l'autre sujet qui est celui du vin des nazis. Christophe Lucan, quand les caves françaises ont été occupées justement par les Allemands, par les nazis, ça commence. Quand est-ce qu'on fait au départ un diagnostic sur ce qu'il peut y avoir dans les caves françaises? Est-ce qu'on se dit, après tout, vous en plus vous êtes en Bourgogne, donc vous connaissez bien les caves, les chais, etc. Est-ce qu'il y a une volonté avant même d'arriver en France, de se dire, bah, tiens, on va aller dans le Bordelais et en Bourgogne, parce que là, il y a effectivement des crues absolument incroyables?
Oui, c'est-à-dire que dès le départ, dès la défaite de la France au printemps 1940, le pays est vu par le Reich nazi comme le principal potentiel pourvoyeur de matières agricoles pour l'Allemagne. Et le vin fait partie de ces matières extrêmement recherchées, un butin qui aiguise toutes les convoitises. Et dès le printemps 1940, il est décidé de coordonner la captation à l'échelle industrielle de tout ce qui peut servir au Reich, et en particulier de ce vin, que ce soit les vins fins, les vins de luxe, les vins d'appellation, ou les vins les plus courants pour la consommation de la population allemande.
Alors, c'est quelque chose que vous précisez. Vous dites que le vin est important pendant la campagne allemande parce que c'est une... Au-delà du côté enivrant, c'est une nourriture fondamentale.
C'est un produit qui est dès le départ jugé stratégique. Il va évidemment d'abord alimenter la mondanité nazie et les tables des grands dignitaires du Reich autour d'Hitler. Hitler lui-même ne boit pas d'alcool, mais il est entouré de gros buveurs, Hermann Göring par exemple, Joachim von Ribbentrop, et ce vin va venir très rapidement alimenter les tables du Reich et participer en fait à un pouvoir de connivence, de clientélisme, de corruption aussi, qui va se déchaîner partout en Europe. Et puis le vin va alimenter la population civile allemande, les troupes allemandes également, jusqu'à la fin de la guerre, pouvoir servir de carburant de substitution à travers les vins vinés qui vont servir d'alcool pour certains moteurs allemands et notamment les armes secrètes d'Hitler.
Quand vous dites qu'il faut discipliner et centraliser le pillage des vins, ça veut dire que d'une certaine manière, au départ, il y a un peu de flou dans tout ça et qu'il faut, comme vous le dites, discipliner pour éviter que les officiers nazis se jettent sur... Je sais pas moi, des Romanée Conti 1921 et en face des et les boivent au goulot avec un bout de sandwich et que derrière en fait, est-ce qu'il y a une volonté de faire du commerce et du coup d'avoir de l'argent grâce à ce vin français?
Oui, c'est ça, parce qu'à partir de l'été 1940, en réalité, la France est submergée par les demandes allemandes. Les troupes d'occupation se servent abondamment et elles payent directement auprès des producteurs, des négociants en vin, des domaines, des vignerons. Et donc le marché vitivinicole français, qui était jusqu'alors marqué par une surproduction endémique depuis des années, et bien est frappé par des achats tous azimuts qui le placent en fait au bord du gouffre. Très vite, les Allemands conçoivent qu'il faut discipliner ce marché pour pouvoir l'intégrer à l'économie du Reich et pour pouvoir l'intégrer aussi à des circuits économiques internationaux.
Michel Teldoldi, quand vous entendez cette histoire narrée par Christophe Lucan, ces nazis qui pillent les... Alors c'est un sujet sur lequel vous n'avez pas travaillé, mais qu'est-ce que ça provoque en vous? C'est une histoire que vous connaissiez?
Oui, c'est une histoire que je connais, enfin, dont j'avais entendu parler, que je connaissais, je ne sais pas, mais dont j'avais entendu parler. Oui, bah, et de toute façon, c'est méthodiquement, c'est ce qu'ils ont fait quand ils sont arrivés dans des pays, quand ils ont occupé des pays. Méthodiquement, ils les ont pillés.
Parce qu'on savait pour les tableaux de maîtres, d'ailleurs, qu'on retrouve ici et là, dans des ventes aux enchères, parfois, et qui sont ensuite rendus aux familles pillées. Mais pour le vin, c'est aussi une valeur.
Oui, c'est aussi une valeur. Ils l'ont fait aussi pour les livres. Enfin, ils ont pillé méthodiquement les ressources de chaque pays. Donc, c'est vrai que les vins, c'était une manne en France.
Alors, on revient à votre pacte avec le diable, Heinz Bringer, Otto Ambros, Rolf Engel. Ceux-là, on n'en a pas encore parlé. Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là?
Alors Otto Ambros, c'est le cas le plus intéressant, le plus
Pourquoi
symptomatique. Bah parce que Otto Ambros, donc c'était aussi un proche d'Hitler, et c'est lui qui travaillait chez BASF et qui a mis au point le gaz qui servait dans les chambres à gaz. Donc il allait régulièrement à Auschwitz. Je crois qu'il a fait 20 ou 25 voyages à Auschwitz. Et pour mettre au point les chambres à gaz. Enfin, il est vraiment...
Donc il est parfaitement au courant de ce qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Totalement. Totalement, il est même au centre.
C'est un ami d'Himmler. Hein.
Oui, c'est un ami d'Himmler. C'est... Et donc, on le récupère.
Comment, cette
fois-ci ? On le récupère parce que les Américains l'avaient arrêté. Et les Français étaient au courant que les Américains l'avaient arrêté. Et les Américains, il y a eu une lutte entre deux services, l'un prétendant qu'il fallait le juger et l'autre prétendant qu'il fallait le garder avec eux sans le juger pour ses compétences techniques. Là-dessus, les Français, très malins, dans cette période qui était absolument extrêmement, entre guillemets, bordélique, le récupèrent. Ils le ramènent, ils l'engagent, donc ils travaillent avec eux. Il avait un deuxième intérêt que je raconte, c'est qu'il avait... était consultant pendant la guerre de la première entreprise chimique qui avait des capitaux allemands, d'entreprises chimiques françaises, et il venait en France.
Donc il avait connaissance du pays, il savait comment c'était organisé,
le pays.
Et ça lui plaisait peut-être, exactement comme le raconte Christophe Lucan avec le vin des nazis, il aimait peut-être aussi le vin de Bourgogne.
C'est fort possible, c'est fort possible, donc il a été contacté, il est venu travailler, il a travaillé avec un certain nombre d'entreprises, il y avait les Charbonnages de France, il y avait toute une série d'entreprises, il était consultant, mais les Américains n'étaient pas vraiment contents. Et donc, les Américains ont fait le forcing. Et à un moment, au bout de 3-4 ans, les Français l'ont libéré pour le faire...
Repartir aux États-Unis.
Repartir aux États-Unis, où il a eu un procès très vite bâclé, parce qu'il est devenu conseiller d'industriel américain. Il est resté très peu de temps en prison, alors que c'était une pièce centrale de la Shoah.
Et c'est donc, ça qui est un... Et donc, Otto Ambros a fait juste un petit passage en France. Combien de temps ?
2-3 ans, il est resté en France.
2-3 ans, il est resté en France.
Après, il a continué à avoir des contacts et à être consultant.
Mais quand on l'a renvoyé aux États-Unis, c'était plus pour faire plaisir aux autorités américaines ou c'était par remords en disant quand même, on ne peut pas garder ce type-là ?
Remords, on ne connaît pas. Non, c'est parce que...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça, remords, on ne connaît pas ?
Parce que, si vous voulez, j'ai tous ces gens que j'ai rencontrés, j'ai pas rencontré d'anciens scientifiques nazis, mais par contre, j'ai eu des interviews vidéo. Donc j'ai vu comment il y avait une absence totale de remords de ces gens-là. Bringer, par exemple.
Vous avez parlé à Bringer ?
Non, j'ai
Vous l'avez vu, vous avez vu des vidéos de lui ?
Oui, des interviews de 3-4 heures.
Vous ne l'avez pas interrogé vous-même directement, il était déjà mort. Ouais.
Mais si vous voulez, il y avait Bringer vous dit, au cours de l'interview, donc il a travaillé avec des déportés à Dora. Dora, on sait ce que c'est, on sait qu'il y a eu des milliers de morts. Et Bringer disait, face à des historiens, les yeux dans les yeux, il était à Vernon, disait « Ces gens-là avaient de tellement bonnes conditions de vie qu'ils auraient pu vivre centenaires. »
C'est terrible.
C'est terrible. Et Ostrich était pareil. Et comme, si vous voulez, on a été dans une situation où tout le monde a mis la poussière sous le tapis, sur le passé des gens, parce que sinon, c'était insupportable. C'était insupportable. Donc, tout le monde a mis la poussière sous le tapis. Donc, ces gens n'ont jamais eu aucun remords. Et l'État français non plus. Parce que ce qui est étonnant, c'est le roman national qui est né de ça. C'est-à-dire le roman national qui nous a fait croire que la France s'était reconstruite à la libération toute seule, non seulement sans l'aide du plan Marshall, mais en plus sans faire comme les autres alliés et se servir d'anciens nazis. Alors que nous sommes... certainement le pays qui en a tiré le plus de profit.
Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été décorés, comme Hermann Ostrich ?
Non, il y en a un autre qui a failli être décoré, mais ils se sont retenus au dernier moment. Par contre, Bringer, il a une rue à son nom.
Comment ça, Bringer a une rue à son nom ? En France ?
En France, oui, bien sûr. Il a une rue à son nom.
Mais où ça ?
Près de Vernon.
Il a une rue à son nom.
Ouais, ouais.
Et Hermann Ostrich, il n'y a pas eu une procédure pour lui enlever post-mortem sa Légion d'honneur.
Non, il n'y a eu aucune procédure. Il a toujours la Légion d'honneur.
Vous savez, mais vous n'avez pas écrit vous-même à la chancellerie en disant « Regardez ce qui s'est passé ?»
Mais ils le savent. Enfin, si vous voulez...
Ils le savent. Attendez, ça va mieux en le disant aussi. Hein.
Oui, mais non, je n'ai pas pensé. Alors ça, je n'ai pas pensé. Mais si vous voulez, je suis tellement... Honnêtement, au début, je ne connaissais pas...
Vous êtes encore sous le choc, en fait, alors que le livre est paru depuis quelques semaines, mais vous êtes encore sous le choc.
Ah bah complètement, parce qu'au début, je pensais découvrir une petite histoire, et je pense que c'est une histoire qui, normalement, devrait entraîner une revisite de ce qui s'est passé à la Libération et de tout le roman national.
Christophe Lucan, vous entendez le récit de Michel Tedoldi, Un pacte avec le diable. J'imagine que vous êtes aussi effaré que nous dans le studio. Vous-même, à distance, vous-même, vous avez, j'allais dire, interrogé des gens qui ont été en contact avec les nazis. Vous avez eu ce genre d'investigation de votre côté ?
Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'investigation globale, de la démarche de l'historien. Alors, des personnages qui ont connu, su ou vu directement ou participé à cette période, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Mais les archives écrites, elles parlent, elles sont denses et elles confirment effectivement tout cela. En ce qui concerne en tout cas la captation des vins, c'est effectivement à une échelle tout à fait industrielle, une chaîne de complicité d'envergure étonnante qui participe grandement à cette histoire. Alors je rejoins tout à fait ce qui a été dit sur une histoire qui s'oppose finalement dans nos travaux au mythe résistentialiste, c'est-à-dire à la belle histoire. Et donc, contrarier la belle histoire, c'est aussi difficile dans le travail même de l'historien et de l'enquêteur.
On parlait du remords, Christophe Lucan, on parlait du remords avec Michel Tedoldi. Et est-ce que vous êtes sur la même ligne? C'est-à-dire que c'est vrai que quand on regarde les interviews d'anciens nazis, qui pour certains sont déjà morts, il y a cette absence totale de remords. Il y avait ça, je ne saurais plus citer, je ne veux pas dire de bêtises, ceux que j'ai regardés moi-même sur YouTube ou sur des vidéos. Il y a ce côté complètement placide en disant, bah voilà, écoutez, c'était comme ça, je faisais mon travail, etc., etc.
Ce sont toujours des personnages qui vont, qu'ils soient collaborateurs, collaborationnistes ou nazis, issus de l'Allemagne, ce sont des personnages qui vont minimiser effectivement leur action en précisant qu'ils n'ont participé qu'à une infime partie en fait d'une chaîne beaucoup plus complexe et qui vont avoir tendance à vouloir absolument contextualiser en expliquant que eh bien finalement projeté dans l'univers de cette époque il était beaucoup plus difficile de réagir autrement. Donc effectivement ce sont des gens qui vont multiplier et les excuses et les éléments disons d'interprétation susceptible en fait de leur permettre d'expliquer les choses.
Alors vous aussi dans votre enquête, Christophe Lucan, vous nommez quelques personnes, notamment un ecclésiastique au début de votre livre, et il y a eu des complicités pour le pillage des vins.
Oui, le pillage en réalité en est un à l'échelle des professionnels, mais ce pillage il est déguisé puisque l'Allemagne achète les vins directement aux professionnels avec de l'argent de la Banque de France, puisque ces productions sont achetées à partir du tribut de guerre que la France est condamnée à payer journalièrement à l'Allemagne. Et évidemment, il y a une chaîne de complicité qui s'opère avec des individus qui, chacun à leur échelle, vont soit par opportunisme, soit par adhésion claire à l'idéologie nazie, vont contribuer vraiment à faciliter cette captation.
C'est-à-dire que pour ceux dont vous venez de parler, ceux qui sont vraiment embarqués dans l'idéologie, ce sont des gens qui pensent qu'il y a au bout une victoire de l'Allemagne nazie sur l'Europe.
Ah, complètement. En 1940, on a toute une partie de la population française qui considère que la France a été terriblement vaincu et que c'est irréversible. C'est-à-dire que le pays tel qu'il a été ne revivra plus. Que l'Allemagne est là pour plusieurs dizaines d'années, voire pour bien davantage encore. Et donc, ces gens vont avoir tendance aussi à tenter de se tailler une nouvelle place, une nouvelle position dans l'ordre nouveau. Et c'est le cas, je le raconte, y compris de personnages qui ont pu être des héros antérieurement. C'est le cas de Monseigneur Mailleul de Lupé, par exemple, prêtre, aumônier, autrefois combattant héroïque de la Première Guerre mondiale, comme l'a été Joseph Darnand d'ailleurs, et qui va se vautrer dans une collaboration, dans un collaborationnisme total, débridé, adhérant à la Ligue des volontaires français contre le bolchevisme, puis versant dans la Waffen-SS Charlemagne et contribuant par là même à l'effort de guerre allemand.
Ben oui, c'est le cas de Pétain aussi, deux rôles très très différents pendant la Première et pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Tout à fait, tout à fait.
Michel Tedoldi et Christophe Lucan, je vois là un parallèle, c'est-à-dire qu'il y a dans les années 40, comme le disait Christophe Lucan à l'instant, une idéologie où on va croire que l'Allemagne va être victorieuse et que du coup on se projette dans cette histoire qui finalement n'interviendra pas. Michel Tedoldi, vous, il y a des personnages qui ont justement cru très très longtemps à cette ascension de l'Allemagne et qui finalement sont propulsés, donc soit on l'a dit aux États-Unis, soit en France, soit dans d'autres pays également. Et du coup, comment est-ce qu'ils font pour faire ablation presque de cette idéologie qui les a tellement portés? C'est assez étrange.
Je pense que c'est la capacité, je ne sais pas, de résilience de l'être humain, j'imagine. Et d'oublier, en tout cas de...
Me, myself and I, comme disent les Anglais, hein, c'est ça, c'est, moi et moi.
Voilà, c'est ouais. Oublier, en tout cas, c'est oublier, ou en tout cas nier ce qui s'est passé. Et pour les scientifiques, il y a quelque chose d'important, et ça, on n'a jamais mis le doigt dessus. Mais quand on lit sur, je reviens sur Dora, sur ce qui s'est passé à Dora, par exemple, les ingénieurs participaient, demandaient aux SS de punir des prisonniers. Donc ils n'étaient pas que là pour faire des équations, mais ils participaient.
Ils avaient un rôle en tant qu'officier.
Non, en tant que scientifique. En tant que scientifique, il y a des témoignages. Il y a Linda Hunt qui a écrit un très bon livre là-dessus. Il y a des témoignages. Il racontait qu'il dénonçait des prisonniers aux SS. Et il y a même un médecin SS qui a fait un courrier aux ingénieurs en précisant que les punitions ne sont l'offre que des SS et qu'il fallait que les ingénieurs arrêtent de frapper les déportés.
Parce que ce n'était pas leur boulot.
Parce que c'était pas leur boulot. Mais surtout, ils participaient à ça. Et donc, il y a quelque chose...
De totalement nauséabond.
Voilà, on va trouver ça comme terme, effectivement.
Dites-moi, est-ce qu'il y a chez ces scientifiques que vous avez rassemblés dans ce livre, est-ce qu'il n'y a que ce côté, et je vais employer un terme familier que tout le monde va comprendre, que pour ma gueule, l'Allemagne nazie c'est fini, donc... je vais en France trouver une porte de sortie ou aux États-Unis, ou est-ce qu'il y a aussi la volonté en tant que scientifique, parce qu'on en connaît, vous en connaissez moi aussi, des scientifiques qui ont envie de trouver des technologies nouvelles. Quand on a travaillé chez Messerschmitt, est-ce qu'on se dit, ma vie n'est pas finie, j'ai envie de construire le meilleur moteur d'avion qui existe pour plus tard, et là on trouve son épanouissement justement dans les usines françaises.
Moi je pense, alors peut-être que je me trompe, hein, mais au travers de mon enquête, je pense qu'il y a une idéologie derrière tout ça. C'est-à-dire que pas mal de ces ingénieurs ont travaillé pour la France. Puis une fois que ça s'est terminé pour la France, bon, ils sont tous quand même motivés par un antisémitisme redoutable. Ils sont partis souvent en Égypte, en Syrie, pour aller fabriquer des missiles qu'on pouvait balancer sur Israël. Donc il y a une constante idéologie.
Il y a encore ça. Hein.
Ouais. Il y a une constante idéologie de chez eux. Et ce qui est absolument surréaliste, c'est que cette part d'histoire, ce morceau d'histoire est complètement méconnu. C'est ça qui m'épate.
C'est ça qui fait la force de votre livre. Christophe Lucan, le vin des nazis, ça se termine mal, en tout cas pour les nazis, puisque ça ne marche, le projet ne marche pas jusqu'au bout.
Ça se termine d'autant plus mal que le vin et ses productions, les alcools, les liqueurs captées par les nazis vont contribuer à ce clientélisme, à cette corruption assez époustouflante qui va s'emparer en fait de tous les dignitaires allemands au sein de l'armée, au sein du parti, et qui vont corrompre considérablement un Reich qui, à mesure qu'il s'oriente vers la défaite, se délite. C'est-à-dire qu'on voit des dignitaires et des dirigeants nazis qui jouent leur carte personnelle et qui vont utiliser le vin et tout ce qu'ils peuvent capter pour tenter de s'enrichir chacun de leur côté. Et finalement, on voit se désagréger cette armée et ce parti nazi au fur et à mesure. Le vin est vraiment
c'est
un bon
individuel qui l'emporte sur le collectif, et c'est ça qui fait tomber la baraque.
Complètement. Et la jalousie, la corruption, elle entretient aussi la jalousie et la concurrence entre les différents dignitaires nazis qui vont même jusqu'à s'opposer. On voit dans cette traque en fait des richesses du pays, eh bien une concurrence exacerbée entre les différentes unités de l'armée allemande qui se jalousent et se méfient l'une de l'autre.
Merci beaucoup Christophe Lucan. Deux livres à lire, Le vin des nazis chez Grasset et Un pacte avec le diable chez Albin Michel. Merci à vous Michel Tedoldi. Deux livres effectivement qui raconte deux histoires, mais vous l'aurez compris, il y a des résonances. Très bonne soirée à vous. Dès demain, 5h, l'information avec Alexandre Lemaire, Omblin Roche, et ensuite Dimitri Pavlenko. Et pour l'heure, c'est Lionel Rousseau.